Combien seront-ils demain dans la rue contre la réforme des retraites? Les syndicats parviendront-ils à mobiliser 1 million de Français comme le 19 janvier ou plus encore? C'est une journée décisive pour l'exécutif qui s'annonce. Et même les retraités manifestent désormais leur opposition. Ces seniors qui font de la résistance pourraient peser dans le bras de fer avec le gouvernement. Retraités, souvent propriétaires et sans enfants à charge, sont exemptés de tout effort collectif. Des économistes viennent de jeter un pavé dans la mare en proposant qu'ils mettent la main à la poche. L'idée ne fait pas l'unanimité chez les seniors opposés à la réforme des retraites. Pour sauver les pensions, faut-il mettre les retraités à contribution?
Le gouvernement n'a pas persuadé les gens qu'effectivement il y a un péril financier imminent qui justifie une telle réforme. Et donc, et puis en plus, on voit que la réforme, elle frappe surtout ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Et donc, les retraités, naturellement, sont solidaires de ces gens-là.
Moi, je vais vous dire, je suis un retraité ancien. Il n'y a rien de pire que des conflits de génération. Si je viens là, c'est aussi en même temps pour aider ces jeunes générations à être à leur côté, alors que, vous savez, j'ai 82 ans et une grande partie de ma vie est faite. Et à la limite, je pourrais rester au chaud, si je puis dire.
Traité, là, on parlait beaucoup de la grand-parentalité. Ils donnent 500 euros par an par petits-enfants. Ils donnent des gardes.
C'est un chiffre en moyenne, ça, c'est un chiffre médian.
C'est un chiffre, en moyenne. En même temps, sur les heures de garde, il y a 9 heures par semaine par petits-enfants de garde.
Ce qui aide les femmes, notamment, et les mères célibataires.
Exactement.
En particulier.
Et ce qui aide les femmes sur leur travail. Et donc, de fait, c'est un cercle très vertueux. Mais là, on parle de ces questions familiales, mais on peut aussi le voir sur les questions de société avec le bénévolat. Et donc, de fait, je dirais qu'il y a une manière de contribuer à la société qui existe déjà.
La famille qui est riche et qui peut effectivement vous financer quand vous avez des parents et des grands-parents riches, tant mieux pour vous. Mais on ne peut pas privatiser, si vous voulez, la solidarité descendante des grands-parents aux enfants et socialiser aujourd'hui des jeunes actifs vers les plus âgés. Vous voyez, c'est le problème. Aujourd'hui, la solidarité pour les retraites, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Un jeune actif non cadre dans le privé, c'est 27-28% de son salaire qui tous les mois va pour financer la pension des retraités.
Alors, on revient. Différence de salaire aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie moyen supérieur au reste de la population, 2310 euros mensuellement, contre 2110 euros. Là, on se dit, c'est vrai qu'ils pourraient mettre la main à la poche.
D'abord, les retraités ont déjà mis la main à la poche. Il faut voir que durant ces 7 dernières années, le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 8,6%. Tandis que le pouvoir d'achat des salaires a augmenté de 2,5%. Donc déjà, les retraités ont mis la main à la poche.
On a créé. Expliquez-nous, parce que normalement, c'est indexé sur l'inflation.
Oui, c'est indexé sur l'inflation, mais il faut vous rappeler qu'on a eu un ripage entre cotisations sociales des salariés pour le chômage, qui maintenant, c'est de la CSG qui pèse aussi sur les retraités. Et en plus, cette indexation ne joue pas toutes les années. L'année dernière, en 2020, les retraités ont été perdants. En 2021, ils ont été perdants. Ça dépend des années.
Donc ils ont perdu du pouvoir d'achat.
Ils ont perdu du pouvoir d'achat. L'indexation n'a pas été complète. Ouais. Il faut voir que quand on regarde sur plus longue période, on a augmenté la CSG. C'est les retraités qui l'ont payé.
Alors que
pour une grande partie des retraités, ils l'ont payé. Et donc, les retraités ont le sentiment d'avoir effectivement contribué. Et par ailleurs, actuellement, le niveau de vie des retraités est à peu près équivalent à celui des actifs, même quand on tient compte des loyers fictifs, c'est à peu près équivalent. Il faut se rappeler que les pauvres dans notre société, c'est avant tout les jeunes, les enfants, et rien ne dit que si les retraités mettaient à la main, à la poche, ce serait effectivement les allocations familiales ou les allocations pour les jeunes qui seraient effectivement augmentées. Donc les retraités n'ont pas le sentiment actuellement d'être les privilégiés. Ils ont cotisé et naturellement,
ils
sont en retraite.
Alors, les salaires ont augmenté moins vite que les retraites. Faut le dire quand même, on est dans un pays en 2022, les retraites ont augmenté plus vite que les salaires.
C'est la seule année, c'est la seule fois en 10 ans.
c'est la seule fois en 10 ans, mais ça, il faut quand même le vanter. On prend aujourd'hui des dettes, on s'endette pour payer les retraites aujourd'hui en France. Moi, je préférais qu'on fasse de la dette pour investir dans l'avenir, dans les écoles, dans les crèches, dans les hôpitaux, dans les palais de justice, plutôt que s'endetter pour payer les retraites. C'est quand même, moi, je trouve quelque chose de très funeste. Plutôt que d'investir dans l'avenir, on hypothèque l'avenir au nom du présent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aussi se rendre compte qu'on est face à un vieillissement accéléré de la population en France, que ce vieillissement, il a un coût et qu'il ne peut pas simplement retomber sur
les épaules. Vous voulez dire qu'il y a de moins en moins d'actifs pour financer la retraite des retraités.
Vous avez de moins en moins d'actifs pour toujours plus de retraités. Donc au bout d'un moment, le réflexe politique, il a été de mettre l'accent sur les actifs, de dire vous cotisez plus longtemps. Le système de solidarité intergénérationnelle, il s'est déséquilibré. Aujourd'hui, les actifs sont moins riches que les retraités. Donc ce sont des pauvres qui financent des riches, en moyenne bien sûr. C'est des grandes moyennes. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau en France.
Pardon,
il y a des retraités pauvres, bien sûr. Il faut quand même rappeler aussi que les retraités, enfin les plus de 65 ans en France, sont les seuls à avoir un revenu garanti par l'État, qui s'appelle le minimum vieillesse, l'ASPA.
Il est de combien ?
Environ 960-968 euros. C'est pas beaucoup,
mais c'est pas beaucoup.
C'est les seuls en France. Si vous avez 25 ans, vous n'avez même pas droit au RSA, je vous rappelle. Donc c'est les seuls en France qui ont ça. C'est un filet de sécurité anti-pauvreté qui a bien marché et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le taux de pauvreté...
C'est pas suffisant, quand même.
Il est jamais suffisant, bien sûr. On peut toujours argumenter de l'augmenter. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté, il est le plus bas chez les retraités. Et effectivement, comme le rappelait M. Sardinec, il est le plus élevé chez les jeunes, les futurs actifs, ceux qui héritent des dettes, ceux qui vont devoir cotiser comme jamais pour justement financer le vieillissement de la population.
Le système des retraites est équilibré, donc il n'y a pas a priori de dettes liées au système des...
C'est pas ce que dit le corps.
Le corps dit en 2022 comme en 2023, le système des retraites est équilibré. Le Conseil d'orientation des retraites, ça consiste à dire le nombre de retraités par rapport au nombre des actifs va augmenter de 26%. Et le corps nous dit, eh ben, grosso modo, on va faire baisser le ratio pension sur salaire moyen de 26%. Donc effectivement, il y a un tout petit déficit qui reste, mais fondamentalement, l'idée du corps, du gouvernement, de l'oligarchie financière, c'est de dire on va faire payer le vieillissement de la population par les retraités. Alors,
Par les retraités,
parce qu'effectivement, on va faire baisser de 26% le ratio entre la retraite
et le salaire.
C'est pas la
réforme, c'est de faire travailler plus longtemps les actifs.
Je parle des prévisions
mais là, on est
du corps et de la projection du gouvernement.
Alors,
des arrêts fiscales qui est très coûteuses. Oui, effectivement, le gouvernement n'en parle pas, en tout cas à ce stade. Ça n'est pas une piste aujourd'hui en France au moment de déclarer ses revenus, c'est-à-dire ses pensions au fisc. Les retraités bénéficient de l'abattement de 10%. Au titre, écoutez bien, de frais professionnels, c'est automatique, il n'y a pas de justificatif à fournir, alors que par définition, les retraités n'ont pas de frais professionnels à compenser, ce qui est quand même assez curieux, et c'est quelque chose que la Cour des comptes avait épinglé il y a assez longtemps, c'était en 2012, dans un rapport sur les niches fiscales, donc des retraités. Les sages avaient calculé que la suppression de cette ristourne, elle date de 1978, rapporterait pas moins de 2,7 milliards à l'État, et ce sont des chiffres de l'époque, donc ça doit être beaucoup plus aujourd'hui. Elle représente un avantage moyen de 670 euros par personne, mais c'est bien une moyenne puisque toujours d'après la Cour des comptes, 20% des retraités les plus aisés s'en partagent la moitié. Le plafond est élevé, il s'établit à 3 912 euros.
Quelle est l'équité déjà entre les retraités? On parlait quand même déjà des retraités pauvres. Il y en a quand même plus de 5 millions qui gagnent 1 000 euros ou moins de 1 000 euros par mois. Donc déjà, comment on fait pour...
Il y a des retraités qui continuent à travailler pour compléter leur pension.
Exactement, il y a à peu près 500 000 retraités qui travaillent pour compléter cette pension. Pour d'autres qui le font parce qu'ils sont des consultants expérimentés, donc qui continuent à améliorer leur retraite. Mais il y a vraiment cette idée de comment on fait déjà pour que les retraités vivent dignement, le plus longtemps possible, et qu'en plus, ces différences d'équité, elles sont aussi le plus souvent touchées par les femmes. On parlait déjà des femmes. Il y a 40% d'écart de pension entre les hommes et les femmes. Et que quand je parle des 5 millions et plus de retraités qui gagnent moins de 1 000 euros, eh bien, ce sont 75% des femmes. Donc après... Quand on a dit ça, il y a aussi ce que vous avez dit, là, cette niche fiscale. Est-ce qu'elle est à prendre en compte ou pas par les classes supérieures? Je pense que c'est à chacun et à chaque individu de prendre sa responsabilité.
Alors, justement, l'effort face au vieillissement de la population entre les générations. Moi, j'aime beaucoup le terme d'équité, c'est l'équité entre les générations, celles qui ont travaillé hier, celles qui travaillent aujourd'hui. Vous avez mentionné cette niche fiscale qui est parmi les plus coûteuses, effectivement, la Cour des comptes le rappelle très bien, parmi les plus injustes, je trouve. Il n'y a aucune raison pour que cette niche fiscale.
Parce que ça bénéficie aux retraités les plus aisés.
Oui, en plus, et effectivement, c'est pour des frais professionnels. On sait que la France est un des pays où les retraités travaillent le moins au monde. Donc là, il y a un vrai problème. La CSG, vous en parlez tout à l'heure, la CSG, elle a le taux qui est payé par les retraités est plus bas que celui par les actifs. Or, la CSG, on sait que 70% des recettes de la CSG, c'est pour financer quoi ? Les retraites, la dépendance, le vieillissement. Donc c'est un impôt en fait qui sert à financer le vieillissement de la population. Il est payé à un taux réduit par les retraités. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je
Quelle
trouve
est la différence entre le taux des actifs
Alors, les actifs, c'est plus ou moins 9%. Les retraités, les plus aisés, c'est moins de 8%. Enfin, c'est autour de 8%. D'accord. Et vous avez des paliers et vous avez plein d'exceptions qui font que vous avez plein de retraités qui ne le payent pas. Moi, je ne comprends pas comment, encore une fois, quand on part du principe du niveau de vie qui est supérieur pour les retraités aux actifs, comment on estime que le même impôt doit être payé plus élevé par les actifs que par les retraités.
C'est une aberration. La réponse est extrêmement simple. En 1997, les retraités ne payaient aucune CSG et naturellement, les actifs payaient des cotisations salariales, maladie et chômage. Donc ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a fait monter la CSG sur les retraités, qui est maintenant à 8,3%, et en même temps, on a supprimé les cotisations salariales, maladie et chômage. Donc,
pourquoi est-ce qu'ils payent tout inférieur ?
Donc, dans le historiquement, les retraités ont été victimes d'une opération qui a permis de baisser le niveau de vie des retraités et d'augmenter le niveau de vie des actifs. La petite différence qui subsiste aujourd'hui n'a aucune importance. Il faut voir la dynamique. La dynamique, je rassure mon voisin de droite, nous avons un système qui est d'une équité fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse. Qu'ont fait les gouvernements face au vieillissement, ils ont petit à petit dégradé les règles sur les retraites. Par exemple, jadis, les retraites étaient indexées sur les salaires. Maintenant, elles ne sont plus indexées que sur les prix. C'est quand même une baisse de 25% du niveau moyen des retraites grâce à cette réforme. Il y a eu des tas de réformes qui ont fait que, effectivement, on a conservé l'équité.
Parler d'un temps où les retraites étaient effectivement basses et les gens partaient plus tard à la retraite.
Je parle de ce qui s'est passé durant ces 25 dernières années.
Oui, mais moi, je vous parle
le gouvernement a empêché les retraites d'être trop fortes.
Peut-être qu'on pourrait aussi regarder les choses autrement et sortir d'un environnement financier et se dire comment en fait on pourrait peut-être créer des économies circulaires sur les communes en se basant sur les compétences des retraités pour peut-être les mettre en lien avec les besoins des territoires. Comment en fait on pourrait aussi imaginer d'autres manières de faire.
Pardon, c'est-à-dire les faire travailler gratuitement, je ne comprends pas.
Non, juste d'être dans du bénévolat. Imaginons sur 2-3 heures par semaine pour qu'il y ait ce sentiment d'utilité sociale et de pouvoir contribuer à leur commune.
Mais ils font déjà énormément de bénévolat.
Ils font du bénévolat, bien évidemment, mais pour rester dans cette dynamique-là. La question financière est que la différence avec le bénévolat, si on peut utiliser ce terme-là, c'est qu'en fait, dans le bénévolat, vous avez le sentiment d'utilité, de lien, et puis de se sentir citoyen. Beaucoup plus peut-être que quand on donne de l'argent.
Maxime Zbaï, juste quand même, est-ce que ça veut dire quand même que si on s'attaque aux retraités en général, ça risque pas d'encourager la retraite par capitalisation, d'un mot ?
Non, on est dans un système par répartition, on ne peut pas en sortir, on est bloqué. Les nouvelles générations sont bloquées et elles vont devoir payer, encore une fois, le prix de ce vieillissement. On n'est qu'au début. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut faire attention à l'équité entre les générations et de ne pas asphyxier les actifs qui viennent de traverser aussi 2 années de Covid. Pour lesquels, je le rappelle quand même, on s'est protégé, on a protégé nos aînés. C'était un élan de solidarité formidable envers les générations aînées. Et peut-être que, peut-être qu'aujourd'hui, pour équilibrer les comptes sociaux, on peut demander aussi en retour un effort collectif. C'est ça la solidarité intergénérationnelle.
Merci.